France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir, Mucheng Pech. Bonsoir, vous venez d'arriver en studio et le
bonsoir,
micro
Zoé.
Est loin de vous. Est-ce que ça va ?
Très bien, merci beaucoup.
Très bien.
Bonsoir Zoé, bonsoir Frédéric.
Merci, bonsoir à vous. Vous êtes directrice à l'éducation, au contenu et à l'information dans cette ONG qui s'appelle Bibliothèque sans frontières, qui a été créée en 2007, c'est-à-dire qu'elle a quasiment, elle a presque 12 ans, cette ONG. Et alors, elle porte un nom, Bibliothèque sans frontières, où quand on y pense, on voit des livres dans des avions, pourquoi pas. Mais comment est-ce que vous définiriez l'activité de manière générale, l'ambition de cette ONG, puisque, et d'ailleurs vous le dites sur votre site, les bibliothèques du 21e siècle, c'est pas forcément celle qu'on imagine, ça peut être un Fab Lab, ça peut être un Learning Center, ça peut être beaucoup de choses. C'est quoi, disons, l'état d'esprit général ?
Exactement. Pour nous, la bibliothèque, c'est bien plus que quatre murs et des livres poussiéreux à l'intérieur. C'est justement un espace communautaire, d'abord, un espace qui appartient à la communauté locale. En fait, on a, nous, pour mandat, la volonté de porter la connaissance à ceux qui en sont privés, et ça partout dans le monde. Ça veut dire essayer de renforcer la capacité d'agir des populations, et notamment celles qui sont les plus vulnérables, à travers l'accès à l'éducation, l'accès à l'information et l'accès à la culture. Donc, effectivement, la bibliothèque, pour nous, ça peut être un Fab Lab, ça peut être un espace d'apprentissage, un Learning Center, enfin, un
c'est la bibliothèque dans l'acception la plus universelle.
Exactement.
Qu'on puisse en avoir. Alors effectivement, vous avez plusieurs projets très importants et très différents, mais qui sont effectivement destinés à des populations souvent soit isolées ou soit en marge, qui n'ont pas accès à ces fameuses questions. L'une des derniers projets que vous avez lancé, c'était juste à la fin du mois dernier. C'est un projet de formation des bibliothécaires en France, cette fois-ci, des bibliothécaires pour accueillir les migrants. De quoi s'agit-il exactement ?
Exactement. C'est un projet qu'on a lancé à la demande de nos partenaires bibliothécaires en France, qui se retrouvaient confrontés à devoir accueillir des populations qui ne parlaient pas les mêmes langue en bibliothèque. Les populations qui sont en situation de migration et sans toujours savoir comment faire, quels services leur proposer, comment vraiment ouvrir la bibliothèque et aussi mélanger les populations migrantes qui viennent en bibliothèque et les usagers habituels. Et donc on a lancé un parcours de formation en ligne sur une plateforme qui s'appelle BSF Campus, que vous trouvez en ligne, qui est complètement gratuite, complètement accessible à tous et qui a pour vocation comme ça de faire émerger des bonnes pratiques que d'ailleurs les bibliothèques emploient déjà pour accueillir les personnes qui sont en migration dans les bibliothèques.
C'est quoi ces bonnes pratiques justement ? Parce que vous avez ce savoir-faire, on va y revenir, mais c'est quoi ces bonnes pratiques pour accueillir quand on est un bibliothécaire qui parle français, qui a passé un concours parfois il y a 20 ans ?
Écoutez, c'est un exemple parfois extrêmement simple, c'est simplement avoir de la signalétique dans les bonnes langues pour permettre aux gens de se reposer dans la bibliothèque, même si on ne parle pas toujours la même langue qu'eux. C'est potentiellement proposer des contenus dans les langues que parlent les personnes qui viennent en bibliothèque, et c'est aussi ouvrir la bibliothèque vers l'extérieur, c'est-à-dire créer des partenariats éventuellement avec, par exemple, des bénévoles qui viennent faire des cours de français langue étrangère en bibliothèque, et comme ça créer du lien entre ces populations qui ne fréquentent d'habitude pas la bibliothèque et l'écosystème du coin. C'est aussi par là que passe l'intégration, et pour nous, la bibliothèque a vraiment un rôle clé à jouer sur ces questions d'immigration et d'intégration.
Alors là, évidemment, on parle de la France, et on parle de villes, parfois même de grandes villes en France, mais vous, vos terrains d'intervention, ils sont plutôt ailleurs en réalité. Vous avez plusieurs, disons, champs de compétences, l'urgence après les conflits, et aller dans des endroits où l'information ou peu pas disponible. Parmi vos outils, parce que vous en avez plein, il y en a un qui est peut-être probablement le plus célèbre et celui qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle les Idea Box, que vous avez conçu avec le designer Philippe Star, qui je crois vous a offert la conception de design de ce mini Fab Lab, en fait, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un Idea Box ? Qu'est-ce qu'il y a dedans et où est-ce que vous l'amenez ?
Alors, l'Ideas Box, c'est effectivement une médiathèque en kit qui nous permet d'amener la bibliothèque au plus près des populations qui en ont besoin, parce qu'elle n'est pas toujours là où on en a le plus besoin. En fait, l'idée est venue juste après le tremblement de terre en Haïti, où on avait commencé à expérimenter des bibliothèques sous tente avec l'UNICEF et avec des bibliothécaires. Et on s'est rendu compte de l'importance de l'accès à l'information dans ces contextes-là, encore plus que dans n'importe quel contexte. C'est, l'accès à l'information, c'est un droit fondamental et c'est finalement le prérequis à la reconstruction de la société, c'est le prérequis à l'expression, à l'utilisation de ces droits de citoyens finalement. Et donc l'Ideas Box, c'est une médiathèque qui tient sur deux palettes et qui, quand elle s'ouvre, crée un espace d'une centaine de mètres carrés qui permet d'accueillir environ 70 personnes à la fois avec tout ce qu'une médiathèque peut offrir. Donc bien sûr des contenus physiques, des livres, des DVD, des jeux de société, etc. Mais aussi du contenu numérique et du contenu numérique qu'on essaye d'embarquer en offline dans des contextes où on n'a pas toujours le droit d'avoir accès à Internet, qui est aujourd'hui une des clés de l'information.
Parce qu'effectivement, c'est la chose fondamentale dans cette histoire, c'est que vous le rappelez, effectivement, quand il y a un gros séisme ou quand on est dans un camp de réfugiés, comme il en existe depuis la crise en Syrie, la crise en Irak, on pense évidemment à la nourriture. nourriture, on pense évidemment aux soins médicaux, mais très peu à ce type d'informations. Et effectivement, je suis pas sûre que nos auditeurs le sachent, parfois, dans ce type de contexte, on n'a pas Internet, parce que la structure ou l'infrastructure est mauvaise. Et parfois, dans beaucoup de camps de réfugiés, il n'est pas autorisé, il n'est pas possible d'avoir Internet, c'est interdit.
Exactement. C'est politiquement interdit. Les réfugiés n'ont pas forcément toujours le droit d'avoir accès à Internet, et pourtant, c'est un droit fondamental d'avoir accès à cette information-là. Donc, des Ideas Box, aujourd'hui, on en a une centaine, à peu près, dans une vingtaine de pays à travers le monde, dans des camps de réfugiés, dans des situations en développement, mais aussi en France, d'ailleurs, où l'idée, c'est d'aller au-devant des populations qui n'ont pas forcément facilement accès à de l'infrastructure culturelle, grâce à cette Ideas Box.
Alors, justement, qu'est-ce que c'est l'Internet offline? Est-ce que vous pouvez essayer de m'expliquer de quoi il s'agit?
Bien sûr. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 4 milliards de personnes qui n'ont pas encore accès à Internet. Et on a ce grand fantasme de se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, tout le monde sera connecté. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et si on regarde par exemple l'Afrique, il y a 28% de la population seulement qui est connectée à Internet. Et ce chiffre double si on enlève des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, etc. Et donc, on a encore tout un pan de la population qui n'a pas accès à ces contenus-là. Dans un contexte où l'information est de plus en plus nombreuse et où les échanges sont de plus en plus rapides, ce sont des inégalités qu'on est en train de construire avec cet accès disparate à Internet. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec l'Internet offline, on est un groupe d'une vingtaine d'organisations qui travaillons à ça, c'est finalement d'amener le potentiel d'Internet en local, là où il n'y a pas accès. Donc, c'est tout bête, on va créer des serveurs, des petits ordinateurs sur lesquels on va charger des contenus, et ces serveurs vont créer un hotspot Wi-Fi, un peu comme si on était connecté à Internet, mais sans Internet.
On est connecté et on a accès à ce qu'il y a déjà dans ces fameux petits systèmes que vous avez conçus. Donc en fait, on a à la fois du contenu, mais on a aussi l'idée finalement d'Internet, la manière dont on circule dessus, qui est parfois très abstraite si on n'y a pas accès. On en parle souvent ici dans SoftPower.
Exactement, et surtout l'intérêt pour nous, c'est non seulement de donner accès à du contenu de qualité, mais c'est aussi de donner accès au potentiel qu'est Internet, en termes notamment d'expression et de contribution. Et ça, c'est clé pour nous, parce que vous me demandiez tout à l'heure, cette Ideas Box, finalement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais écoutez, le contenant est toujours standardisé, mais le contenu est toujours adapté aux populations locales. Et ce qui est encore plus important pour nous, c'est de donner les moyens aux gens de s'exprimer, de créer eux-mêmes leur contenu. Je pense que c'est crucial aujourd'hui.
Et ça, vous le dites souvent, parce que évidemment, on connaît, on a tous eu, quand on va acheter des livres ou quand on va en vendre chez Ubergen, des gens qui vous disent on prend tous ces livres on va les envoyer en Afrique, on va les envoyer en Asie. Vous le dites, c'est pas forcément la meilleure manière de faire, en fait, parce que on est en train, grâce aux livres, soit de mettre en danger parfois des écosystèmes d'édition locaux qui existent déjà avec des gens qui essayent d'avoir une économie du livre ou de la culture. Et par ailleurs, les contenus sont pas nécessairement adaptés. Vous travaillez comment là-dessus?
Exactement. C'est exactement ce que vous dites. C'est le fondamental. C'est l'idée sur laquelle BSF a été créé au tout début. C'était cette idée de repenser la dynamique du développement culturel et du don de livres vers les pays du Sud. En disant, on a tendance à trop donner ce dont on ne veut pas dans les pays du Nord.
C'est ça.
Et justement, tout l'objectif pour nous, c'est de travailler avec les communautés locales. On travaille toujours avec des partenaires avec qui on va sélectionner ces contenus pour être sûr que ça répond vraiment aux besoins des populations locales. Et puis surtout, on va être très, très itératif dans la façon dont on fonctionne. Et le numérique, c'est un vrai levier pour cette itération-là. Justement, et encore plus important, ce qu'on essaye de faire, c'est de stimuler la créativité en local, de donner les moyens aux gens de créer eux-mêmes leur contenu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de donner des outils, qui est monter des radios communautaires, par exemple, dans les camps de réfugiés, qui est des journaux qui s'écrivent, des livres qui s'écrivent localement, etc. Et que tout ça puisse être partagé.
Justement, par exemple, qu'est-ce que vous vous rendez compte qu'en termes de contenu, de quoi on a besoin dans un camp de réfugiés où vous êtes en partenariat avec le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, je sais pas, par exemple, en Jordanie, ou dans vos actions quand vous êtes, par exemple, en Afrique? Quel est typiquement des exemples peut-être de différences en termes de contenu?
Et bien justement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que toutes les Ideas Box sont complètement uniques, que ça dépend beaucoup, beaucoup de la communauté locale et que surtout on voit évoluer ses besoins au cours du temps. Parce qu'au début, quand on arrive, alors on a souvent des demandes assez classiques finalement. On a besoin d'accès à l'éducation, on veut se former professionnellement. Et plus on avance, plus les gens deviennent critiques envers les contenus qu'on a mis à disposition. Ils disent, mais en fait, c'était pas du tout ça qu'on voulait. Alors finalement, il faut creuser un tout petit peu plus ça. Et parfois, on a des demandes extrêmement précises. Par exemple, des manuels de mécanique pour réparer sa voiture dans un camp de réfugiés au Burundi, ou alors du contenu psychosocial pour promouvoir le bien-être psychologique des jeunes filles kurdes en Irak, par exemple. Donc c'est extrêmement varié.
Et vous l'avez dit, une dernière question sur cet enjeu de l'offline. En fait, il y a vraiment un enjeu d'égalité, parce que le droit à l'information est un droit fondamental. Et puis surtout, cet Internet, cette grande disparité face à Internet, vous l'avez dit, fait qu'aujourd'hui, en fait, on pense qu'Internet est un outil mondial, mondialisé, avec toute une forme de multiplicité de sources et d'émetteurs. En réalité, c'est pas le cas et c'est un grand enjeu.
Absolument. Je pense que, en plus de ça, la question de la fracture aujourd'hui numérique se fait presque plus sur la question de l'usage que finalement sur la question de l'accès. Et on le voit bien en France, même en France, on a 40% de la population qui est effrayée à l'idée de devoir faire ses démarches en ligne, par exemple. Et donc, je pense que là, aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Voyageurs du numérique, qui fait son tour de France un petit peu partout, alors dans les grandes villes, mais surtout dans les zones rurales, dans les petits villages, pour accompagner toutes les populations sur cette prise en main du numérique. Et c'est là où je pense qu'en termes de plaidoyer, on a besoin que les gens se mobilisent autour de nous.
Merci beaucoup, Mui Chengpesh. Vous êtes directrice à l'éducation au contenu et à l'information dans cette ONG, donc Bibliothèque sans frontières, qui est donc une bibliothèque des bibliothèques et bien plus encore. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.